Et c'est une nouvelle édition de nos 7-9 grands formats que nous vous proposons aujourd'hui avec Léa Salamé. Je vous en rappelle le principe et l'ambition, dialogue au long cours avec un candidat, une candidate pour qui, elle, expose sa vision de la France sur l'économie, les relations internationales, l'écologie et la politique. Dans une vingtaine de minutes, amis auditeurs, vous aurez longuement la parole. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Passez autrement par les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Et notre invitée ce mardi est une femme, la candidate LR à la présidentielle. Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Après le flash de 9h, vous répondrez aux questions des éditorialistes et des spécialistes de France Inter. Dominique Seux sur l'économie, Sandy Dauphin sur l'écologie, Thomas Legrand sur la politique, Pierre Aski sur l'international. On vous interrogera aussi dans quelques instants sur l'international et l'Ukraine, évidemment. Et c'est Augustin Trapenard qui viendra mettre un point final à ce 7-9 grand format.
Alors, commençons par une question générale, Valérie Pécresse. C'est la tradition dans ces 7-9 spéciaux. Vous représentez dans cette élection un parti traditionnel qui a donné plusieurs
partis.
Oui, qui a donné...
Les Républicains, les UDI, les centristes.
Voilà, qui ont donné, pour ce qui est de l'UMPLR, plusieurs présidents à la 5e République. Le dernier en date fut Nicolas Sarkozy. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron se faisait élire quasiment sans parti. En 2022, Éric Zemmour vous talonne, voire vous dépasse dans certains sondages, alors que son parti Reconquête est encore embryonnaire. De ce point de vue, n'êtes-vous pas la candidate d'un monde politique aujourd'hui disparu, celui des grands partis structurant la vie politique? Ces grands partis, ou ce qu'il en reste, ne sont-ils pas décalés par rapport à la rapidité, à la nature même de la politique aujourd'hui?
Ce que je crois, c'est qu'il faut porter un projet pour la France. Et que ce projet, qui est le mien, c'est celui qui va réparer vraiment le pays. Et il peut y avoir dans les campagnes des poussées d'un certain nombre de mouvements, de personnalités, mais il y a aussi la force d'un projet. Et mon projet, c'est vraiment de ramener l'ordre, mais c'est aussi de reconstruire tous nos services publics qui sont à terre, de reconstruire notre économie qui s'est désindustrialisée et de réinventer la France de l'après-Covid. Parce que cette France de l'après-Covid, eh bien, elle ne ressemblera pas du tout à celle d'aujourd'hui. Ce sera une France dans laquelle il faut réinventer le travail, réinventer notre rapport au territoire, réinventer nos solidarités. Et donc, je crois à la force de mon projet.
Ce projet, alors justement, vous dites souvent, Valérie Pécresse, que vous êtes cinéphile et fan de cinéma. J'ai envie de vous demander quel est le pitch de votre candidature, de votre campagne. J'ai du mal à le définir. Ceux qui ont gagné la présidentielle avant vous avaient un pitch qui tenait en une phrase et on comprenait ce que c'était que leur candidature. Jacques Chirac, c'était la fracture sociale. Nicolas Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus. François Hollande, c'était mon ennemi, c'est la finance. Emmanuel Macron, c'est avec moi, c'est le nouveau monde. Vous, ce serait quoi la phrase choc que les gens retiendraient en disant bon, bah, la candidature de Valérie Pécresse, c'est ça?
Je veux remettre de l'ordre et libérer les Français. Remettre de l'ordre dans un pays qui est aujourd'hui en crise d'autorité et libérer les énergies des Français, notamment par le travail, avec une mesure très symbolique, hein, 10% de hausse des salaires sur le quinquennat.
Venons-en à présent à la tension maximale dans la crise ukrainienne, qui est donc encore montée d'un cran hier soir avec cette allocution télévisée de Vladimir Poutine, dans laquelle il a reconnu l'indépendance des régions séparatistes de Louhansk et de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. D'abord, avant, on va y venir évidemment sur le fond, mais d'abord la forme de cette allocution de plus d'une heure, les mots, la responsabilité des effusions de sang incombera aux dirigeants ukrainiens, l'Ukraine traître, corrompue, injustement partie de l'URSS. Comment avez-vous reçu ces mots et leur violence?
Je crois que la situation est très grave et je voudrais d'abord assurer le peuple ukrainien de ma totale solidarité et je pense aussi à nos ressortissants français qui sont aujourd'hui en Ukraine. Il faut condamner fermement, résolument, ce qui est une violation du droit international, la violation et l'abandon des accords de Minsk. Et comme vous, j'ai été frappée par cette violence verbale. Mais qui sert à quoi? Elle sert en réalité à convaincre le peuple russe que cette cause est juste. Parce qu'en réalité, le peuple russe, lui, je pense, veut vivre en paix dans ses frontières. Et donc il y a quelque chose de volontaire dans cette violence, c'est celle de la mobilisation d'un peuple pour une cause qui n'est pas la sienne, qui est celle d'aller dans ces républiques du Donbass qui, jusqu'au terme des accords de Minsk, devait appartenir à l'Ukraine.
Mais reste-t-il encore une place pour la diplomatie ou est-ce désormais la perspective de la guerre? Voyez-vous encore une possibilité de discuter avec Vladimir Poutine après ce discours d'hier?
Il faut tout faire pour éviter l'escalade et pour provoquer un électrochoc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien d'abord des sanctions. Il faut que l'Union européenne se mette d'accord sur des sanctions, qu'elles soient fermes.
Lesquelles? Par exemple
Des sanctions économiques ciblées sur la Russie pour faire reculer l'offensive dès maintenant. Et par ailleurs, ce que je constate, c'est qu'une fois encore, Vladimir Poutine a manipulé l'Europe a instrumentalisé son dialogue avec Emmanuel Macron. En réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire et vraisemblablement, il a utilisé notre diplomatie pour se donner le beau rôle. J'ai négocié jusqu'au bout. En réalité, il n'a rien négocié du tout. Il savait déjà. Vous savez que la Douma a voté la reconnaissance des deux républiques du Donbass. Donc, en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Donc, on ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir cherché à dialoguer. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est que ce dialogue ait été aussi tardif. C'est depuis janvier que l'on sait que la situation est tendue. Et j'ajoute que le dialogue solitaire n'a pas aidé. Emmanuel Macron s'est mis en scène en allant à Moscou tout seul. Il aurait dû y aller avec le chancelier allemand, avec des représentants de l'Union européenne, pour montrer une Union européenne unie et puissante. Et puis enfin, il fallait proposer un plan global à Vladimir Poutine. À une certaine époque, il l'aurait sans doute acheté. Un plan global, sécurité des frontières ukrainiennes, contre le report de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et l'organisation que j'ai proposée dès janvier d'une grande conférence sur la sécurité européenne avec la Russie et l'Union européenne.
Pardon Valérie Pécresse, vous auriez été présidente en janvier, vous auriez proposé votre plan. Quand vous entendez Vladimir Poutine hier, vous avez vraiment l'impression qu'il vous aurait prise plus au sérieux.
De dialogue avec Vladimir Poutine, il n'y en a pas eu depuis quasiment 3 ans. Donc il fallait commencer à dialoguer, il fallait nourrir de propositions, il fallait éviter l'escalade et les surenchères. Peut-être que ça n'aurait pas marché, mais en tout cas, le jeu collectif aurait renforcé l'Union européenne. Et le sujet aujourd'hui, c'est que cette crise doit éclairer l'Union européenne. Il doit y avoir une forme, là encore, d'électrochoc. Son destin, le destin de la paix en Europe, repose aussi sur ses épaules. Elle ne peut pas, aujourd'hui, se défausser uniquement sur l'OTAN. L'OTAN, dont je rappelle qu'Emmanuel Macron avait fait de la provocation en disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Ben, on voit aujourd'hui que l'OTAN est bien utile, puisque c'est eux qui assurent notre défense. On a besoin aujourd'hui que l'Union européenne définisse une stratégie pour la paix en Europe. Et à cet égard, je pense aussi aux États membres de l'Union européenne qui sont aujourd'hui frontaliers de la Russie et qui sont dans un état de très grande inquiétude quand ils voient
les États baltes, la Pologne,
bien
même.
Sûr, les États baltes, la Pologne qui se disent aujourd'hui voilà ce dont Vladimir Poutine est capable et voilà ce que les grandes démocraties n'arrivent pas à empêcher. Alors il va y avoir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU peut-être, qui est aujourd'hui présidé par la Russie, c'est ironique, donc je ne suis pas sûre qu'il en sorte grand-chose. Le sujet, c'est vraiment quelle place l'Union européenne peut jouer aujourd'hui dans la paix du continent européen.
Sur le versant français, la majorité présidentielle vous accuse, vous et LR, d'une forme de complaisance à l'égard de Vladimir Poutine. Clément Beaune vous interpellait à ce sujet ce week-end sur Radio J. Je le cite, les Républicains, c'est le parti de Monsieur Fillon qui est complice de Monsieur Poutine. Quand on est ancien Premier ministre, on se déshonore quand, dans des moments comme celui-ci, on se met au service des intérêts financiers russes. Fin de citation. Valérie Pécresse doit dire de manière claire ce qu'elle en pense, ajoute Clément Beaune. Il vous interpelle donc. Que lui répondez-vous?
D'abord, moi je suis dans l'opposition, mais je fais preuve de dignité. Et je n'attaque pas le président de la République, même quand j'ai le sentiment qu'il instrumentalise une cause internationale à des fins électorales. Je fais preuve de dignité et j'attends aussi de la majorité qu'elle fasse preuve d'un peu de dignité dans cette affaire. Ces attaques sont purement politiciennes. Combien y a-t-il de Français qui travaillent pour des entreprises russes?
Mais c'est un ancien Premier ministre.
Oui, hein. François Fillon a appelé Emmanuel Macron pour s'étonner et s'indigner de ses propos. Et Emmanuel Macron a désavoué Monsieur Beaune. Donc je pense qu'il faudrait que la campagne ne soit pas l'occasion de sombrer dans l'indignité la plus totale.
Pardon, vous pouvez repréciser, vous avez parlé trop ou pas assez. François Fillon a appelé Emmanuel Macron qui a désavoué Clément Beaune sur ses propos.
Absolument, absolument. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron est aujourd'hui en charge de l'Union européenne. Il est en charge aujourd'hui de cette grande responsabilité. Je pense que ça ne tolère pas des petites polémiques politiciennes de campagne.
Un mot encore, Valérie Pécresse, sur l'Europe. Lors de votre discours au Zénith, vous avez soutenu l'idée d'une construction de murs aux frontières de l'UE. S'il faut en bâtir, comme le font certains États, je vous cite, je les soutiendrai. Donc si vous êtes présidente, vous demanderez bien à l'UE de financer, par exemple, des murs en Pologne ou ailleurs.
Regardez la situation en face. Personne ne souhaite construire des murs aux frontières de l'Europe. Mais quand vous êtes soumis au chantage migratoire de la Biélorussie, chantage migratoire de la Turquie. Comprenez la détresse, j'étais en Grèce, du premier ministre grec, du peuple grec, qui se retrouve obligé de construire des barrières physiques. Et personne ne les aide. Et tout le monde les laisse tomber, alors qu'ils assurent notre sécurité, la sécurité de notre
frontière.
Donc
il faut que l'Union européenne paye ses murs.
Il faut que l'Union européenne aide les pays qui protègent sa frontière, parce que c'est sa frontière. Et si ils ont besoin, malheureusement, ils y sont contraints et forcés de mettre des barrières physiques pour que les migrants passent par des points de passage obligés, c'est les points de passage autorisés de Schengen, eh bien, il faut les aider. On peut pas laisser tomber des pays qui sont aujourd'hui nos remparts face à des chantages migratoires qui sont exercés par des pays qui veulent nous mettre à genoux. Qu'est-ce qu'ils veulent, la Turquie, la Biélorussie? Ils veulent que l'Europe apparaisse comme faible. Ils veulent qu'on apparaisse comme n'ayant pas le contrôle de nos frontières. On peut pas laisser tolérer ça.
Alors, sur l'immigration, vous voulez, si vous êtes élu, une loi constitutionnelle que vous ferez adopter par référendum pour en arriver au quota annuel d'immigration par pays et par métier. J'ai bien lu. Concrètement, comment ça va se passer? S'il y a 200 pays, disons qu'il y a 50 types de métiers qui demandent de la main-d'œuvre. Le Parlement votera chaque année, ce sera comment? Il dira, on prend 10 000 Brésiliens en tant qu'agronome, 20 000 Chinois pour être ingénieur, 13 000 Algériens pour...
Ces systèmes de quotas sont en place dans des grands pays comme les États-Unis, comme le Canada. C'est des systèmes qui fonctionnent. J'ajoute que je n'étais pas la seule à les proposer dans le passé. Un certain nombre d'hommes politiques, y compris, je crois, Édouard Philippe, s'y étaient déclarés favorables. Aujourd'hui, Emmanuel Macron nous explique que ça ne marche pas. Mais il théorise finalement son impuissance à faire respecter une vraie stratégie migratoire. On doit pouvoir choisir qui on accueille. Et c'est pas la même chose d'accueillir un ressortissant d'un pays qui joue le jeu, qui reprend ses clandestins, et un pays qui ne joue pas le jeu et qui refuse de les reprendre quand ils sont sur notre sol. Avec moi, ce sera un donnant-donnant. Si on reprend ses clandestins, on aura droit à des visas. Si on ne les reprend pas, ce sera zéro visa. Et par ailleurs, avec cette politique de quotas, on peut diviser à peu près par deux, je pense, le nombre de visas délivrés. Aujourd'hui, on est à 272 000. C'est le record quasiment comme en 2019. On atteint pratiquement le nombre record de 2019. 272 000 aujourd'hui, c'est trop. On n'arrive pas à intégrer correctement, à accueillir, à donner du travail à l'ensemble de ces populations.
Sur l'asile, Valérie Pécresse, vous voulez obliger à ce que les demandes d'asile soient déposées à l'étranger ou à la frontière. Dans ce cas, les demandeurs seront placés dans des centres dédiés, fermés, renvoyés si leur demande n'est pas acceptée. La plupart des demandeurs d'asile fuient leur pays. Comment peuvent-ils, selon vous, faire des démarches administratives dans un État en guerre, un État failli, une dictature? Comment un Syrien, par exemple, qui fuit la guerre, dépose sa demande d'asile? Ou le fait-il simplement, concrètement?
Alors, les demandeurs d'asile traversent des pays avant de venir en France. Et dans ces pays, il y a des ambassades. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on dépose le maximum de demandes d'asile dans les ambassades de France. Sur le chemin qui conduit à la France. Il y a aussi des demandes d'asile individuelles dans des pays qui ne sont pas en guerre et dans lesquels l'ambassade de France fonctionne. Plus il y aura de demandes d'asile déposées dans nos ambassades, plus ce sera simple et mieux on accueillera les demandeurs d'asile. Parce que s'ils ont leur leur titre d'asile en arrivant, on peut les accueillir et on peut tout de suite les intégrer, les aider. Donc ce sera un système vertueux pour les vrais demandeurs d'asile. En revanche, pour ceux qui veulent venir et qui ne sont en réalité pas persécutés chez eux, on voit bien que eux veulent détourner le système. Donc eux, je pense qu'ils n'iront pas dans nos ambassades et ils se présenteront à la frontière française et ils demanderont l'asile du coup à la frontière française. Eux, il faut répondre en les plaçant dans des centres qui sont ouverts le temps de l'examen de leur demande. Ils sont ouverts, ils pourront aller et venir, mais ils seront assignés à ce centre qui examinera leur demande. S'ils quittent le centre, à ce moment-là, l'examen de la demande serait suspendu. Donc, c'est ce qui se fait en Grèce. Donc, on est dans le centre, on sort, on vit une vie normale dans le centre, on attend que la demande soit examinée. En Grèce, ça prend en moyenne 25 jours. Et au bout de 25 jours, si on est débouté, à ce moment-là, on retourne dans son pays. Si on n'est pas débouté, on a un titre de séjour. Vous voyez, j'essaye d'organiser le système pour que ce soit plus comme aujourd'hui, une espèce de grande passoire avec des abus de droit à tous les étages. Les Français ne supportent plus ces abus de droit. C'est ce qui fait monter les extrêmes. Vous savez, le bilan d'Emmanuel Macron, c'est quand même 30% de Français qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est ça le bilan d'Emmanuel Macron. Parce que, justement, on ne contrôle pas nos frontières.
Lors de votre campagne pour le Congrès LR, vous indiquez dans votre programme vouloir créer une circonstance aggravante pour certaines infractions dans les quartiers de reconquête républicaine. Sur votre site de campagne, on a cherché, la mesure n'apparaît plus. Elle fait toujours partie de votre projet ou vous y avez renoncé ?
Oui, absolument, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ma politique judiciaire, puisque vous savez que je veux faire un plan hors-sec pour la justice avec 5 milliards d'euros, le recrutement de 16 000 agents, magistrats, agents de la pénitentiaire, greffiers pour la justice, et je veux aussi rétablir les peines planchers pour les multirécidivistes violents, mettre un an de prison ferme lorsque on s'attaque à une personne ayant autorité. Donc il y a toute une série de mesures.
Mais sur ce point-là,
mais absolument. Mais je suis tout à fait.
Pourquoi il est plus sur le site ? Non, parce que je vous pose la question parce que deux gardes des sceaux, l'actuel Éric Dupond-Moretti et Rachida Dati, qui est pourtant LR, disent que cette mesure-là n'est pas constitutionnelle, qu'elle passera jamais. Punir quelqu'un plus durement pour un même fait, pour un vol commis en Saint-Denis plutôt qu'à Neuilly.
Mais c'est pas à Saint-Denis plutôt qu'à Neuilly, c'est absolument pas mon projet, Madame Salamé. C'est dans une zone bien spécifique, il y a 62 zones de reconquête républicaine. Ça vous choque pas, ce vocable, quartier de reconquête républicaine ? Ça veut dire quoi dans votre esprit ? Quartier de reconquête républicaine, c'est un endroit où la République n'existe pas. Reconquête républicaine. Dans ces quartiers, on met 30% de plus de policiers. Mais le problème, c'est qu'on ne met pas des sanctions plus dures. Donc ce que je propose, c'est de faire une circonstance aggravante du fait qu'on commette un crime dans ces quartiers, qui sont des quartiers de reconquête républicaine. Pensez aux habitants de ces quartiers. Pensez à ceux qui vivent dans des quartiers où la République n'existe pas. Et c'est pas moi qui dis que la République n'existe pas, c'est le gouvernement, reconquête républicaine.
Mais vous pensez qu'elle est constitutionnelle, cette mesure ?
Cette mesure est d'autant plus constitutionnelle qu'elle a été travaillée évidemment avec des constitutionnalistes. Aujourd'hui, vous avez des circonstances aggravantes. Si vous commettez un acte d'agression dans les transports en commun. Vous avez une circonstance aggravante si vous commettez un acte dans les écoles. Le même acte dans une école, le même acte dans un transport en commun n'est pas puni de la même peine qu'un acte dans la rue. C'est la même chose. Ce serait zoné sur ces zones. Ce qui ne serait évidemment sans doute pas constitutionnel, ce serait de le dire de manière totalement générale. Là, c'est pas du tout général. C'est ciblé pour reconquérir 62 quartiers. Parce que moi, je ne me résous pas à l'impuissance publique. Et l'impuissance publique aujourd'hui, c'est ça qui fait monter les extrêmes.
Valérie Pécresse, la semaine dernière, quelques questions de politique. Emmanuel Macron enregistrait le ralliement d'un de vos proches, Éric Woerth. Il dit avoir choisi Emmanuel Macron car il n'adhère pas au discours LR d'une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même, obnubilée par l'islamisme radical et les sujets sécuritaires. Sur la forme, vous avez dit que c'était une blessure car c'était un ami. Mais sur le fond, vous lui répondez quoi ?
Qui se renie sur le plan économique, parce que sur le plan économique, il sait très bien, et il l'a dit pendant des années, qu'Emmanuel Macron a dilapidé l'argent public à tour de bras pour assurer sa réélection, et que cette
mais là,
politique...
c'est sur les valeurs.
Oui,
hein.
Mais attendez. Lui, il est président de la commission des finances, et aujourd'hui, il soutient une politique économique qui n'est pas celle qu'il prenait il y a 2 ans. Donc il se renie, c'est son sujet de se grenier. Aujourd'hui, ma droite, c'est une droite qui rassemble y compris le centre avec elle. Et c'est une droite qui est à la fois très ferme sur le régalien, vous l'avez compris, très ferme sur la sécurité, mais en même temps, qui est une droite humaniste et une droite pro-travail, pro-entreprise, qui cherche à donner une dignité aux Français.
D'autres dans votre parti se sont émus de vous voir vous renier certaines de vos valeurs lors de votre discours du Zénith, en utilisant des termes d'extrême droite comme « grand remplacement » ou « français de papier ». Certains disent « elle s'est sciotisée ». Valérie Pécresse, c'est pas
mais
vrai.
C'est une interprétation totalement fausse de mon discours. J'ai dit que je voulais faire des Français de cœur. J'ai dit que tous les Français, d'où qu'ils viennent et de quelles que soient leurs origines, devaient aimer la France et que la France les aimerait et qu'on leur donnerait leur chance. Donc, je veux faire des Français de cœur, c'est ce que j'ai dit. Et non pas de papier. Donc, j'ai dit exactement l'inverse que ce qu'on veut me faire dire.
Au-delà de la sémantique, est-ce que vous pensez que la France est menacée par un grand remplacement, qu'en 2100, il y aura plus de musulmans que de non-musulmans en France, puisque c'est de ça dont on parle quand on emploie l'expression? Ça, vous le pensez ou c'est faux et complotiste?
Mais là encore, cette phrase, elle disait quoi? Je ne me résous ni au grand déclassement, ni au grand remplacement, ni au grand déclassement avec Macron, ni au grand remplacement avec Zemmour. Moi, aujourd'hui, je suis le rempart républicain. Vous me parlez de mots, moi je parle de solutions aux problèmes. Il y a des peurs. Il y a des peurs dans la société française, qui sont des peurs qui sont aujourd'hui instrumentalisées par les extrêmes. À ces peurs, je veux répondre. Et je dis aux Français, n'ayez pas ces peurs. C'était ça le message du discours. N'ayez pas ces peurs, parce que on va résoudre les problèmes de la France. Et c'était ça, la thématique du discours.
Donc,
et
rien d'autre.
Sur le fond,
et
vous toutes les interprétations différentes.
Vous ne pensez pas que ce que dit Éric Zemmour, il ne dit pas que c'est des peurs, il dit que c'est une réalité. Que si on ne fait pas les choses,
mais
il y aura plus de musulmans, il y aura un remplacement
de
population.
Mais je ne suis pas du tout dans la théorie du complot. D'ailleurs, j'ai dit à plusieurs reprises que je détestais cette théorie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a, et il faut le dire, une immigration incontrôlée, une intégration ratée qui disloque la nation française. Et là, il faut apporter des solutions. Moi, je suis la candidate qui apporte les solutions au pays. Emmanuel Macron ne regarde ailleurs, ne veut pas régler ses problèmes, et les extrêmes s'en emparent. Et vous voyez bien le piège dans lequel Emmanuel Macron nous met. En ne s'occupant pas de ses problèmes, il fait monter une France qui, aujourd'hui, se radicalise. Et moi, mon discours au Zénith, c'était de dire non, il y a une autre voie, une troisième voie entre Macron, Le Pen et Zemmour. Il y a une voie qui résout vos problèmes.
France Inter, il est 8h44. On marque une courte pause, Valérie Pécresse, et ce sera le dialogue avec nos auditeurs.
France Inter M.
Clara Luciani, Cœur, l'album de l'année aux dernières victoires de la musique.
Bonjour, c'est Clara Luciani. Je vous présente mon album Cœur, qui, je l'espère, vous redonnera le sourire et le goût de la fête. Retrouvez Cœur, mon album, dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
Il est 8h44.
France Inter, un candidat face au 7-9.
Une candidate ce matin, Valérie Pécresse, qui va maintenant dialoguer avec vous, amis auditeurs. On commence avec Claude au Standard d'Inter. Bonjour Claude, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de France Inter, que j'en remercie d'ailleurs de pouvoir poser ma question aujourd'hui.
Je vous en prie.
Bonjour Madame Pécresse. Madame Pécresse, en 8 ans, les retraites ont perdu environ 10% de leur valeur. Alors les retraités sont, comme vous le savez, d'anciens actifs qui ont travaillé souvent plus de 40 ans. Ce sont des personnes d'ailleurs toujours actives, mais cette fois-ci souvent de manière bénévole, qui contribuent toujours à intervenir auprès de beaucoup d'associations en France. Mmh. La demi-part pour les veufs et les veuves ont été supprimées. Et pourtant, évidemment, c'est quand même aussi celles aussi qui ont pu élever seules des enfants qui sont concernés. Et aujourd'hui, donc, pourtant, aujourd'hui, sûrement 10% de perte de pouvoir d'achat. Alors, Madame Pécresse, vous, présidente, quelles mesures prendriez-vous pour actualiser, je dis bien actualiser, hein, je n'ai pas dit augmenter, j'ai dit actualiser le niveau des retraites. Merci.
Merci à vous, Claude, pour cette question. Valérie Pécresse vous répond.
Claude sait que si on ne fait pas la réforme des retraites, en réalité, le pouvoir d'achat des retraités est condamné à continuer de baisser. Parce qu'il faut faire cette réforme des retraites pour pouvoir avoir les moyens financiers d'indexer les retraites sur l'inflation. Et avec l'inflation qui augmente, on a aujourd'hui un vrai décalage de pouvoir d'achat, y compris avec les retraites complémentaires. Donc moi, je ferai cette réforme des retraites. Elle est compliquée à faire. Elle est difficile. Il va falloir dire la vérité aux Français. Oui, il faudra travailler jusqu'à 65 ans, sauf pour les Français qui sont usés par leur travail, qui ont eu des carrières longues et des métiers pénibles, mais il faudra faire cette réforme. Et c'est comme ça qu'on aura une vraie indexation des retraites. Et par ailleurs, qu'on pourra faire en sorte qu'une personne qui a travaillé toute sa vie, cotisé toute sa vie, n'ait pas une retraite inférieure au SMIC. Et j'ajoute pour les veuves, puisqu'on en parle, que les veuves qui n'ont pas de carrière complète, avec ma réforme, elles verront leur pension de réversion passer de 54% à 75% de la pension de leur conjoint.
Retour au standard. Bonjour Henri.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Bonjour Madame Pécresse.
Bonjour Henri.
Alors, je voulais vous poser une question relative aux différents scénarios du mix énergétique qui ont été publiés récemment, donc RTE, ADEME, Negawatt, et qui soulignent la nécessaire baisse de la consommation énergétique. Ma question est la suivante. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on continue à parler de choix nucléaire versus ENR et autres production énergétique versus une baisse nécessaire, des choix de mode de vie qui permettent une baisse de la consommation énergétique.
Merci beaucoup. Oui, c'était évidemment très clair. Merci Henri pour cette question. Réponse de Valérie Pécresse.
Henri a tout à fait raison. Il faut qu'on axe notre politique, notre stratégie climat pour protéger la planète, non seulement sur l'augmentation de la production d'électricité, j'expliquerai pourquoi après, mais aussi sur la baisse de la consommation d'énergie. Mais Henri, on n'arrivera pas, par la seule baisse de la consommation d'énergie, à compenser l'augmentation nécessaire de l'électricité dont nous aurons besoin demain, parce que si on arrête le fossile, si on arrête le fuel, si on arrête le charbon, si on arrête le pétrole, il faudra remplacer ça par de l'électricité. Remplacer ça par de l'électricité, ça veut dire produire plus d'électricité. Mais il ne faut pas négliger du tout le volet baisse de consommation énergétique, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Et moi, je fusionnerai le livret A et le livret développement durable. Je veux qu'une partie de l'argent du livret A puisse aller à l'aide à la rénovation énergique des bâtiments. C'est aussi une politique pour aider les Français qui consomment moins, faire la chasse au gaspille, aider les Français qui consomment moins d'énergie à payer moins cher, par exemple leur facture d'électricité. Donc il y a toute une série de mesures à prendre pour baisser la consommation énergétique. C'est absolument indispensable.
Et on précise que vous serez questionné sur la question par Sandy Dauphin dans un instant, par Dominique Seux sur l'économie aussi. Non, il faut le préciser parce que parfois les auditeurs nous disent ils ne savent pas que la grande matinale dure jusqu'à 9h30. Ils disent vous n'avez pas posé de questions économiques et écologiques, mais c'est parce que nos spécialistes
ça
vont
arrive.
Le faire.
Ouais. Il est 8h49 pour l'instant et c'est Laurence qui est au standard. Vous êtes là, Laurence,
bonjour.
On vous écoute, bonjour.
Bonjour à la matinale de France Inter, bonjour Madame Pécresse.
Bonjour.
J'ai une question très concrète. Je suis maman de deux enfants âgés de 10 et 6 ans et j'aurais aimé savoir quelle est la politique familiale que vous prévoyez de mettre en place pour toutes les familles, en l'occurrence de cadres me concernant. Puisqu'on a pratiquement, si ce n'est aucune aide financière de garde d'enfants, surtout dans ces moments de Covid où on avertit du jour au lendemain des fermetures de classe, donc où on doit s'organiser, et en fait on a aucune aide, donc oui. J'en profite pour remercier les grands-parents qui jouent le jeu et qui sont pieds levés pour nous aider à garder des enfants et également l'ensemble des amis avec qui on s'arrange. Donc,
merci.
Quelle est votre politique familiale, s'il vous plaît, Madame Pécresse?
Bien compris. Merci Laurence. Valérie Pécresse vous répond.
Merci Laurence. Alors, c'est très important dans le cadre de cette nouvelle France que je veux porter, c'est très important que les familles puissent s'épanouir. Elles ont vécu pendant la crise Covid 2 années absolument épouvantables avec le confinement, avec les protocoles, avec les enfants qui étaient en distanciel ou qui étaient portés des masques pendant les cours. Donc on a besoin d'aider les familles. Et je pense qu'il faut aussi qu'on aide les familles qui veulent avoir des enfants à les avoir, parce que aujourd'hui on le voit, de plus en plus de couples reportent cette décision, non pas par choix, mais par un problème vraiment de pouvoir d'achat, de logement. Donc je vais travailler sur la politique du logement et je vais travailler aussi sur les allocations familiales. Je veux des allocations familiales universelles et je veux aussi qu'on aide les familles à faire garder leurs enfants, et donc je doublerai les aides pour tous les emplois à domicile. C'est important. Pourquoi ? C'est important pour la garde d'enfants, mais c'est important aussi pour les employés à domicile eux-mêmes, qui très souvent, vous le savez, sont dans un statut très précaire, avec des emplois qui sont pas toujours totalement déclaré, pas toujours à temps plein. Donc je veux pouvoir aussi que ces centaines de milliers de salariés, des emplois à la personne, aient un vrai statut.
Ça veut dire quoi, les doublés? Ça veut dire combien?
Qu'on défiscaliserait à peu près l'équivalent d'un SMIC annuel. Et l'objectif, c'est pour la garde d'enfants, mais c'est aussi pour les enfants en situation de handicap, les parents qui ont des enfants en situation de handicap. Et l'autre sujet, c'est l'aide à nos aînés, parce que vous le savez aussi, moi je veux privilégier le maintien à domicile de nos aînés aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, avec le scandale qu'on a vu dans certains EHPAD privés, avec le coût du reste à charge pour les familles des EHPAD, moi je souhaite vraiment qu'on aide ces emplois à domicile.
Hubert au standard, bienvenue, bonjour.
Bonjour l'équipe de la matinale, bonjour Madame Pécresse, ma question est simple. Vous avez participé avec Nicolas Sarkozy à détricoter un peu l'hôpital public. Si vous êtes élue présidente, qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre plan pour l'hôpital?
Merci Hubert pour cette question. Valérie Pécresse.
Alors d'abord, je souhaite recruter 25 000 soignants supplémentaires pour l'hôpital. Donc ça, c'est très important pour l'hôpital public. Aujourd'hui, on a un hôpital qui est à bout de souffle, qui est tenu à bout de bras par des soignants qui sont épuisés. On a énormément de fermetures de lits, on a des démissions. Donc il va falloir faire un vrai choc de formation dans les métiers de la santé et réattirer ces professionnels vers l'hôpital. Dans l'hôpital, je donnerait du pouvoir aux chefs de service, aux soignants. Parce que là aussi, on est allé trop loin et on les a privés de leur capacité d'initiative. Or, on l'a vu pendant la crise Covid, ça a été très bénéfique quand les soignants ont pu prendre des initiatives. Donc on redonnera le pouvoir aux soignants. Et puis, il faut débureaucratiser l'hôpital avec vraiment de la numérisation, de la simplification, parce qu'on sait bien que nos soignants passent un temps fou à faire des procédures administratives. Et puis l'hôpital de proximité deviendra vraiment un pôle de santé très puissant dans la ruralité, parce que là encore, dans la nouvelle France post-Covid qui se dessine, on voit un nouvel attrait pour la ruralité, un nouvel attrait pour les villes moyennes, les bourgs et les villages, et la santé sera un facteur décisif d'attractivité de ces territoires.
Deux questions sociétales rapidement, si vous le voulez bien. Si vous êtes élue présidente, vous revenez sur la PMA pour toutes ou non?
Non, d'autant plus que j'ai dit que compte tenu du fait que elle n'entraînait pas la GPA et que les enfants avaient désormais le droit d'avoir accès à leurs origines, j'y étais favorable.
Fabienne, sur l'appli France Inter, que changerez-vous sur la fin de vie?
Sur la fin de vie, moi ce que je veux, en priorité et d'abord, c'est que la loi Claeys-Leonetti qui prévoit la sédation terminale soit appliquée pour tous les Français. Aujourd'hui, nous n'avons que 30% des Français qui ont accès à la médecine palliative et aux soins palliatifs. C'est-à-dire que l'aspiration des Français aujourd'hui pour la fin de vie, c'est de partir sans souffrir et de partir y compris à domicile et pas à l'hôpital. On doit pouvoir leur offrir ce droit à partir sans souffrir, ce droit à partir dignement. Ça veut dire que la loi Claeys-Leonetti, elle doit être appliquée sur tout le territoire. 70% de Français qui n'ont pas accès, c'est une inégalité scandaleuse devant la fin de vie. Et j'ajoute que je veux développer cette culture palliative chez les généralistes. C'est-à-dire que dès le médecin traitant, on doit pouvoir se voir proposer des solutions.
Quelques questions politiques, si vous le voulez bien. Vous disiez, avec Emmanuel Macron, on a une extrême droite qui est à 30%, c'est vrai. Mais si on regarde les derniers sondages, Marine Le Pen est devant vous et Éric Zemmour vient de vous passer devant dans plusieurs sondages. Comment vous l'expliquez ?
Écoutez, les sondages, ça se croise et ça se décroise. On a eu effectivement un meeting qui n'a pas été le meilleur moment de la campagne, on va dire.
Vous dites qu'il est raté, votre meeting au Zénith.
Sur la forme, on a eu des problèmes techniques, mais aujourd'hui le sujet, c'est mon projet. Et ce projet, je veux le faire vivre parce que je suis persuadée que c'est le projet qui répond et aux aspirations des Français et aux problèmes de la France. Emmanuel Macron a un bilan calamiteux, que ce soit en matière d'autorité, que ce soit en matière de service public. L'école est en grande souffrance, l'hôpital est en grande souffrance, la désindustrialisation se poursuit dans les territoires. Emmanuel Macron n'a fait confiance à personne, à aucun élu. Il a eu une présidence solitaire. La bureaucratie est à son comble.
Pourquoi il est en tête dans les intentions de vote ?
Nous sommes champions du monde,
si c'est si calamiteux.
Des impôts. Mais parce que il échappe à son bilan aujourd'hui. Il est protégé, il se protège, vous avez bien compris. Il a été protégé par la crise Covid, qui lui a permis de mettre à distance tous les problèmes du pays. Et maintenant, il utilise, mais bon, il faut, c'est son rôle. Il y a la crise internationale qui, là aussi, retarde son entrée en campagne. Moi, ce que je dis, c'est que Emmanuel Macron ne peut pas échapper à une revue de son bilan des 5 ans dans lesquels la France s'est abîmée. Et donc, cette crise ukrainienne et ce retard de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron rend encore plus indispensable un débat avec Emmanuel Macron. Et moi, je demande un débat avec Emmanuel Macron sur son bilan. Il faut que les Français puissent juger Macron sur ses actes et sur ses résultats.
Il refuse.
Oui, mais ça n'est pas possible de refuser un débat aujourd'hui sur 5 ans de présidence. Mmh. On ne peut pas avoir un débat démocratique totalement confisqué. On ne va pas avoir de campagne. On va avoir un président qui va faire 1 mois de campagne. C'est pas possible. Il faut aujourd'hui qu'on ait ce débat. Il faut qu'il accepte de débattre.
Au standard, c'est Alain qui nous attend. Bonjour Alain, bienvenue.
Bonjour, bonjour France Inter, bonjour Madame Pécresse.
Bonjour.
Je présente un scénario qui vous serait pas favorable au cas où ça arriverait. Au deuxième tour, vous n'êtes pas présente. Il y a président Macron, enfin le nouveau le candidat bis, Monsieur Zemmour ou éventuellement Madame Le Pen. Vous faites quoi ? Vous prenez position pour quoi ? Faut pas me répondre, je serai présente au deuxième tour. Si vous l'êtes pas, quelle est votre position ? Il y a des personnes chez vous qui ont laissé entendre leur position. Mmh. Monsieur Ciotti avait dit une fois, je voterai pour, voilà, vous le savez.
Mmh. Zemmour,
Zemmour, vous avez une position.
Merci Alain pour cette question, Valérie Pécresse. Alain, attention, il vous a demandé de ne pas échapper à
la
question.
Alain, je vous remercie de votre question, mais personne ne va dans une élection en pensant la perdre. Personne. Et donc, ma réponse est la suivante. Je serai au deuxième tour.
Les élus, à un moment, il va falloir répondre à cette question-là, hein, quand même. Parce que...
Ben non, parce que je serai au deuxième tour.
Oui. Les élus écologistes d'Île-de-France Mobilité ont annoncé avoir saisi le procureur de la République contre vous, Valérie Pécresse, en tant que présidente de la région Île-de-France à la tête d'Île-de-France Mobilité. Ils vous soupçonnent de prise illégale d'intérêt pour avoir détenu de stock options chez Alstom, fournisseur de matériel de la région. L'action de ces élus fait suite à la parution d'articles de presse dans lequel il est indiqué, selon Les Verts, que Madame Pécresse, vous détiendrez avec son mari des actions Alstom. Démentez-vous ces faits. Qu'est-ce que vous répondez ce matin ?
Je réponds que c'est malheureusement les boules puantes de la fin de campagne et que il s'agit de la situation de 2016 quand j'ai été élue présidente de la région Île-de-France et à ce moment-là, j'ai mis en conformité tous mes intérêts sous le contrôle de la HATVP et il n'y a jamais eu de conflit d'intérêts entre moi et l'entreprise Alstom. Jamais. Et donc, je porte plainte en dénonciation calomnieuse contre ces élus verts qui, personne n'est dupe. Je connais leur méthode et franchement, elles sont indignes.
Alors, je le redis pour les auditeurs, Léa, vous avez bien fait de le rappeler, mais je le rappelle à nouveau dans quelques instants après le flash, dialogue entre notre invitée aujourd'hui, Valérie Pécresse, et les éditorialistes et spécialistes du 7-9, Dominique Seux sur l'économie, Thomas Legrand sur la politique, Sandy Dauphin sur l'écologie, Pierre Aski sur les questions internationales, Augustin Trapenard, le point final.
France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand, un candidat face au 7-9.
Valérie Pécresse au micro de France Inter, candidate LR à l'élection présidentielle jusqu'à 9h30. Vous répondrez aux questions donc de Pierre Aski, Thomas Legrand, Sandy Dauphin, Augustin Trapenard. Ouvre le bal maintenant sur l'économie. Dominique Seux.
Oui, bonjour Valérie Pécresse. Alors bonjour. Moi je voudrais vraiment comprendre ce que vous voulez faire sur les salaires. L'idée c'est un peu imposée à tort ou à raison que c'est pas très clair. On va essayer de clarifier tout ça. Vous avez redit hier devant les chefs d'entreprise, hein, vous étiez auditionné, comme on dit, vous avez redit que vous souhaitez augmenter les salaires de 10%, les salaires nets.
Sur mon mandat.
Sur le mandat. Vous avez...
Je veux que les salaires augmentent de 10% sur le mandat.
Voilà. Alors, vous avez été amené à donner des précisions il y a quelques semaines, et notamment indiquer que, dès l'été, si vous êtes élu, les cotisations retraite baisseront, et ça permettra d'augmenter
de
tout
3%.
De suite maintenant de 3%. Mais ce qui est un peu... qui pose un certain nombre de questions, c'est et la suite? En fait, quelle sera la responsabilité d'une présidente de la République sur ce sujet après? Vous laissez les entreprises négocier, vous, c'est l'inflation. En fait, on voit pas très bien le 10%, et dans quelle mesure il vient de vous.
Valérie Pécresse.
Il vient de moi, il vient aussi des entreprises. L'objectif, c'est quoi? C'est de donner aux entreprises toute une série de leviers, des leviers de compétitivité qui vont leur permettre elles-mêmes d'augmenter les salaires. Aujourd'hui, on sait que les entreprises, c'est les estimations de la Banque de France, veulent augmenter à peu près de 2% en plus de l'inflation les salaires pour l'année prochaine. Ça veut dire qu'avec une augmentation...
La prévision est de 4% effectivement pour cette année.
Voilà. Avec donc mes 3%, ça fait déjà 5% en 2 ans. Ensuite, il faut qu'on continue ces augmentations de salaire. Comment est-ce qu'on va pouvoir, les entreprises vont pouvoir les faire? Je vais baisser les impôts de production. Donc, elles vont être ouais. plus compétitives. Je vais libéraliser le temps de travail. Elles vont pouvoir faire travailler de manière beaucoup plus facile les salariés, puisqu'il y aura plus de plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. On pourra convertir les RTT en salaire et on pourra aussi...
Les heures supplémentaires sont déjà défiscalisées pour l'essentiel, hein,
oui,
jusqu'à 5 000 euros.
Jusqu'à 5 000 euros par an, mais
bon,
si quelqu'un veut en faire
c'est pas
plus,
mal quand même,
oui,
hein.
Mais s'il y a volonté d'en faire plus, on peut en faire plus. Et puis, je leur permettrai aussi de fixer le temps de travail librement dans l'entreprise, et à partir de la 35e heure, les heures continueront d'être déchargées, défiscalisées. Donc l'idée, c'est de leur donner de la souplesse. Et je veux aussi débureaucratiser avec elles l'économie. Donc, enlever des normes, enlever toute
d'accord,
une série de procédures.
D'accord, est-ce que vous pouvez garantir ce 10%, ce plus de 10% de pouvoir d'achat? Donc effectivement, il y a plus de certitude pour tout le monde que de certitude pour les bas salaires dans la suite.
Il y a une certitude pour tout le monde maintenant et il y a une certitude pour la suite. Si les entreprises, on créera un observatoire des salaires, on va regarder comment évoluent les salaires. Si les salaires n'évoluent pas suffisamment, à ce moment-là, je reprendrai encore des mesures de baisse de cotisation. Mon objectif, c'est
d'accord.
quoi? Mon objectif,
non, mais l'information
quoi
intéressante, c'est ce matin, c'est que vous nous dites, il peut avoir d'autres baisses de cotisation derrière et vous
si,
restez
si
sur cet engagement de 10%
si
sur le quinquennat.
Si les entreprises ne font pas suffisamment leur part.
D'accord, vous leur mettrez un peu la pression.
Mais non, je vois ce qui, enfin, je vais dialoguer et je vais leur permettre d'avoir des contreparties intéressantes pour pouvoir augmenter les salaires. Mais de toute façon, elles ont besoin d'augmenter les salaires. Mon sujet, il est ce suivant. On a fait le choix du chômage en n'ayant pas des salaires suffisamment ouais. élevés par rapport aux revenus de l'assistance. Aujourd'hui, on ne peut pas baisser les revenus de l'assistance. Moi, je veux qu'on augmente les revenus,
les salaires
nets.
Deuxième point.
Et c'est ce que les Français demandent. Combien de Français aujourd'hui vivent à l'euro près après le 10 du mois? La question du pouvoir d'achat, elle est centrale dans cette campagne. C'est ma question centrale et c'est pour
donc
ça que, je l'adresse.
Deuxième point, vous avez redit hier aussi, moins de bureaucratie, vous avez reparlé du comité de l'âge. Moins de doublons. Bon, les 200 000 fonctionnaires en moins, vous redites ça. Quel échelon d'administration vous supprimez?
Mais je vais faire des blocs
Quand on parle de doublons, c'est quel échelon?
Je vais faire des blocs de compétences. Je vais faire des blocs de compétences. Ça veut dire que quand...
Pour tous les fonctionnaires qui nous écoutent, et j'imagine qu'ils sont assez nombreux, quel échelon on supprime? Voilà, c'est...
Mais c'est pas des échelons qu'on supprime.
Intercommunalité, département, région. Donnez quelques exemples concrets.
Mais voilà. Moi, je ne supprime pas les échelons. J'ai fait, dans ma région, 2 milliards d'euros d'économies. J'ai supprimé 10% des postes au siège. Et j'ai remis... Du coup, j'ai pu remettre des postes au contact du public. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y aura 200 000 suppressions de postes dans l'administration administrante.
Et 50 000 créations
de postes supplémentaires dans trois missions, protéger, éduquer, soigner, qui sont les trois missions essentielles.
Ce que vous demandez aux Français et aux auditeurs, c'est de croire qu'à partir de ce que vous avez fait pour la région, vous le ferez pour la France, mais on ne peut pas avoir tellement d'idées
plus précises pour l'instant. Il y a aujourd'hui des centaines d'agences de l'État, il y a aujourd'hui des comités, il y a aujourd'hui des services qui font la même chose. Quand je vous dis, je vais faire des blocs de compétences, je vous donne un exemple. 2000 guichets aujourd'hui pour l'aide aux entreprises. 2000 guichets, ça n'est pas possible. Il faut simplifier tout ça, il faut enlever les doublons. Et les blocs de compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les départements auront, par exemple, toute la responsabilité du médico-social.
Quand Léa Salamé vous a demandé il y a un instant quel était le pécrécisme, alors économique ou pas, vous avez dit libérer les énergies. Ouais. Vous aviez dit un tiers Thatcher, deux tiers Merkel. Deux exemples, vraiment, 5 secondes chacun, de décisions économiques que vous n'auriez pas prises et qu'a prises Emmanuel Macron.
Des décisions économiques, surendetter la France. Toute la reprise économique, mais c'est une décision absolument massive qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un risque pour l'Europe, monsieur Seux. C'est ce qu'a dit, un risque systémique pour l'Europe. Et la deuxième, c'est sa politique énergétique. Il a une politique de totale gribouille. Il a annoncé la ferme Fessenheim. Il a annoncé la fermeture de 12 réacteurs. Et aujourd'hui, il est obligé de faire volte-face. Au moins, ces deux décisions-là. Mais une troisième, c'est aussi de ne pas peser suffisamment en Europe pour pouvoir obtenir des décisions qui sont conforme aux intérêts français en Europe. On sait que c'est les Allemands qui font la norme, c'est les Allemands qui décident sur beaucoup de sujets, alors que la France devrait être beaucoup plus puissante.
On en reste
la diplomatie d'Emmanuel Macron, c'est une diplomatie de posture, c'est pas une diplomatie d'influence. Moi, je protégerai les intérêts de la France.
Merci Dominique Seux. La parole à Sandy Dauphin, spécialiste environnement de la rédaction de France Inter. Question sur la chasse pour commencer.
Valérie Pécresse, bonjour. Accident de chasse a coûté la vie à une randonneuse de 25 ans ce week-end dans le Cantal. Ce drame relance le débat sur la cohabitation entre les chasseurs et les promeneurs dans les espaces naturels. Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon demandent l'interdiction de la chasse le week-end et les vacances scolaires. Êtes-vous favorable à un ou plusieurs jours sans chasse en France ?
D'abord, c'est une tragédie cet accident et chaque accident de chasse est une absolue tragédie pour la famille de la victime, bien sûr. Aussi pour le chasseur qui commet l'acte, parce que j'imagine que à chaque fois ça bouleverse toutes les vies. Moi, je ne suis pas favorable à une journée générale d'interdiction de la chasse, parce que je crois que aujourd'hui les partages d'usage doivent se faire en fonction des territoires. Je suis favorable à la chasse. Je considère que c'est un droit qui a été acquis, à la Révolution. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la sécurité. Maintenant, il faut qu'on puisse organiser le partage d'usage avec les promeneurs et de manière concertée et de manière consensuelle. Nous, on l'a fait en Île-de-France. En Île-de-France, les forêts domaniales, on ne chasse pas en Île-de-France, dans les forêts domaniales, le week-end. Mais ça a été concerté. Et c'est une décision qui a été prise parce qu'on est une région très urbaine.
Donc localement. Dans votre programme, sur le volet climat, environnement, énergie, vous en avez un petit peu parlé, vous gardez l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.
Non seulement je le garde, mais je veux le faire respecter, parce que pour l'instant, la trajectoire n'est pas suivie.
Vous proposez 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR, une taxe carbone aux frontières, vous misez sur l'hydrogène vert, et vous voulez placer 10% de nos espaces maritimes sous protection forte. Finalement, qu'est-ce qui vous distingue d'Emmanuel Macron dans ces propositions ?
Ce qui m'en distinguait il y a 2 semaines, c'est qu'on avait tout différent. Et effectivement, le président candidat a décidé de changer complètement sa stratégie. Le vrai problème, c'est qu'il n'a pas été capable de mener un seul grand projet industriel dans son quinquennat. Que l'EPR de Flamanville a pris des années de retard, des années de surcoût, que les champs éoliens en mer qui devaient être lancés n'ont toujours pas vu le jour. On est dans une France qui aujourd'hui ne sait pas mener des grands projets industriels. Donc c'est bien les annonces, demain je rase gratis, demain je fais le contraire de ce que j'ai fait la fois d'avant. La vérité, c'est qu'il faut non plus des beaux parleurs à la tête de l'État, mais il faut des faiseurs, des gens qui font. Moi, je ferai, comme je l'ai dit à Dominique Seux, je ferai cette réforme de l'État qui est la mère des réformes, pour laquelle il faudra beaucoup de courage, il faudra une méthode, il faudra réexaminer chaque dépense. Et pareil sur les projets industriels, le vrai sujet, c'est d'avoir la capacité de mener ces projets en supprimant aussi toute une série de tatillonneries bureaucratiques et administratives, tout en conservant évidemment les questions de sécurité qui, en matière nucléaire, sont très importantes.
On voit bien que dans le déploiement de ces nouveaux projets industriels et les énergies renouvelables, il y a une question d'acceptabilité. Les riverains, souvent, qui s'y opposent, on le voit pour les éoliennes en mer. Comment faites-vous pour faire accepter ces énergies ?
Là aussi, par la concertation. Moi, je vois bien que sur l'éolien, très clairement, le taux d'acceptabilité, le niveau d'acceptabilité a été atteint. Donc aujourd'hui, on ne peut plus implanter un champ éolien contre l'avis des populations. Ça n'est pas possible. Mais il faut qu'on mette la concertation sur la table. Il y a des projets qui sont concertés, qui se passent très bien.
Donc vous dites quand même aux gens, il faut accélérer, on ne peut pas... pour la transition énergétique,
on aura besoin de plus de renouvelables, de solaire, d'éolien, de méthanisation, de géothermie, d'hydrogène vert, d'hydroélectricité. Le vrai problème, c'est aujourd'hui effectivement l'acceptabilité de ces projets, et ça passe par des concertations locales. On ne peut pas forcer des populations.
Une dernière question sur les transports, qui est le premier secteur émetteur de CO2 en France. Quid de la voiture électrique, fin de vente des voitures neuves thermiques, à quelle échéance? Est-ce que vous avez des précisions là-dessus?
Alors, sur les voitures électriques, moi je propose qu'on accélère l'obligation pour les loueurs de voitures de louer des voitures toutes électriques. Pourquoi? Parce que le sujet de la voiture électrique est un sujet social, c'est très cher d'acheter une voiture électrique. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un marché de l'occasion de voitures électriques, ce qui n'existe pas aujourd'hui.
Parce que c'est assez récent aussi.
Ah oui, mais c'est pour ça que je souhaiterais que dès 2030, tous les loueurs de voitures soient équipés uniquement de voitures électriques, ce qui permettra pour 2035 d'avoir un vrai marché de l'occasion de véhicules électriques, qui permettra aux Français de se mettre, de pouvoir acheter à des prix qui soient un peu plus raisonnable des voitures électriques. Et sur 2035, l'objectif, c'est voitures thermiques et hybrides.
Vous maintenez le hybride, contrairement à l'Europe qui dit en 2035, voudrait proposer que de l'électrique.
Non, il faut maintenir l'hybride, on n'y arrivera pas. Et attention à la casse sociale dans l'industrie automobile.
Merci Sandy Dauphin. La parole à Thomas Legrand, qui va vous interroger, Valérie Pécresse, sur les questions politiques, le concept de repentance.
Oui, bonjour Valérie Pécresse. Vous avez dit récemment, la repentance, ça suffit. Que voulez-vous dire?
Je crois qu'aujourd'hui, la France n'a pas à s'excuser en permanence de son histoire. Nous avons des pages sombres, mais nous avons beaucoup plus de pages lumineuses. Et on a le sentiment, quand on écoute les hommes politiques, alors l'exemple le plus flagrant, c'est quand Emmanuel Macron est allé dire que nous avions commis un crime contre l'humanité en Algérie.
Ça, c'était avant qu'il soit président.
Oui, mais il l'a quand même dit. Et je pense que ces formules, qui sont des formules extrêmement douloureuses pour les mémoires des Français, ces formules, il faut arrêter. Il faut qu'on soit fiers d'avoir des héros et il faut qu'on les valorise.
Et je pense
qu'il faut montrer beaucoup plus de figures positives, notamment dans notre enseignement, dans nos écoles, dans les classes.
Mais par exemple, que pensez-vous du rapport Stora qui a été commandé par Emmanuel Macron sur les mémoires blessées de l'Algérie? Est-ce que vous approuvez, par exemple, l'ouverture des archives militaires, la reconnaissance par la France de la torture et du crime du militant Maurice Audin ou d'Ali Boumedjel?
Ce que je crois, c'est que, là encore, il faut que des deux côtés de la Méditerranée, le travail soit fait. Ce qui est insupportable.
Mais si on attend d'une dictature, parce que l'Algérie, c'est pas une démocratie, qu'elle fasse le travail d'une démocratie, on va pas avancer très vite.
J'entends bien, mais la vérité, elle est pas toute noire, pas toute blanche, et il faut pouvoir la dire complètement. Et
mais là, on a eu raison sur ces deux cas.
Ce qui blesse les mémoires, c'est pas qu'on reconnaisse un certain nombre de faits historiques. Ce qui blesse les mémoires, c'est que ce soit à sens unique. Et ça blesse les mémoires. Vous voyez, sur la question des harkis, prenons la question des harkis. La question des harkis, le président de la République a voulu faire un geste sur les harkis. Et c'est bien. Je le dis. Le problème, c'est que la seule chose qu'ils reconnaissent, c'est qu'ils ont été accueillis de manière indigne en France.
Pas qu'ils ont été chassés, effectivement.
Mais pas qu'ils ont été chassés.
Et ça, c'est à l'Algérie de le faire.
Oui, mais il faut quand même. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que le sentiment qu'ont les Français, c'est que nous faisons le travail de mémoire, mais qu'en revanche, il n'est pas fait de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, ça blesse les mémoires.
Quand le président de la République dit « le système colonial était injuste par nature, le système colonial ne pouvait être vécu autrement que comme une entreprise d'asservissement et d'exploitation », cette qualification-là, vous la reprendriez ou pas?
Mais je crois que là encore, dans le vécu des peuples colonisés, certainement. Mais dans le vécu des Français qui vivaient dans ces colonies, non.
Vous auriez pu prononcer cette phrase?
Pas de cette manière-là.
Parce que c'est 2007, Nicolas Sarkozy. Et j'en ai une autre, alors là je vous le dis avant, parce que c'est Jacques Chirac en 2007 aussi.
Alors,
il dit,
coupée, parce que Nicolas Sarkozy, j'ai écouté ses discours à l'époque, s'il l'a dit, il a dû la balancer d'une deuxième partie de phrase disant que les Français qui étaient là, parce que moi j'ai assisté à ces meetings, les Français qui étaient dans les colonies, eux...
Tous les présidents disent ça, vous avez raison.
D'accord.
Et nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi, une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, Jacques Chirac 2007.
Il parlait effectivement de la traite et il reconnaissait effectivement que ça avait pillé les ressources de l'Afrique. Et il parlait même plus largement de la fuite des cerveaux.
Et c'est ça qu'on appelle la repentance, en fait.
C'est pas de la repentance.
Ah bah c'est quand même aligner les vérités historiques sur la reconnaissance officielle, sur la position officielle. Est-ce qu'il faut quand même poursuivre ce travail-là?
Dire l'histoire, oui. Donner le sentiment qu'il y a un certain nombre de Français qui... eux ne sont coupables de rien.
Vous voulez un balancement.
Qui sont coupables. Je veux que on ne blesse pas les mémoires de Français qui considèrent que ils étaient dans cette histoire totalement honnête.
Et ça, c'était pas un peu l'objet du rapport Stora, justement, puisque
c'était son objet, mais il ne sera atteint que si, je le dis, la vérité se fait dans les deux sens. Et on l'a encore vu dans le discours d'Emmanuel Macron aux rapatriés.
Est-ce qu'il faut mieux enseigner, par exemple, la traite des esclaves à l'école pour nos mémoires,
à ce moment-là, il faut enseigner toutes les traites, et pas donner le sentiment à nos enfants que la France aurait joué un rôle unique, parce que c'est ça en fait le sujet de la repentance, c'est prendre sur nous. L'intégralité du blâme. Alors qu'on sait bien que les traites négrières étaient aussi africaines, on sait bien qu'elles ont été aussi...
Oui, mais quand même, donc il faut attendre que les autres pays fassent le premier pas, surtout des pays pas démocratiques, vous allez attendre longtemps.
Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, la vérité historique, c'est la vérité historique. Le mea culpa unilatéral, c'est la repentance. Et moi, je ne veux pas de mea culpa unilatéral, parce que les enfants de France qui, dans les écoles, entendent dire que les Français étaient esclavagistes, ils ne savent pas qu'il y avait aussi des Africains esclavagistes. Ils ne savent pas que... Donc, ils ne peuvent pas faire la différence. Et ça ne nourrit pas leur amour de la France. Et moi, je ne veux pas avoir des enfants qui grandissent dans la haine de leur propre pays.
Merci Thomas. Pour boucler ce tour de table, Pierre Aski, questions internationales et retour évidemment sur la crise ukrainienne.
Bonjour Valérie Pécresse. Vous vous êtes prononcée tout à l'heure en début d'émission pour des sanctions fermes après les décisions russes sur l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique, quel type de sanctions vous verriez à ce stade ?
Économique et financière.
Mais par exemple, est-ce que vous demanderiez à l'Allemagne de renoncer à Nord Stream 2 ?
À ce stade, je ne pense pas que les Allemands seraient d'accord pour aller jusque-là. Mais il faut se garder cette arme si la situation continue de s'envenimer et dégénère.
Donc vous pensez que Nord Stream 2 est quand même un atout, un outil de sanctions possibles ?
Ah ben ça doit l'être si l'escalade se poursuit, si on arrive à une situation de guerre avec l'Ukraine, il est évident qu'il faudra avoir des sanctions qui soient extrêmement puissantes.
Quelle perspective vous pouvez offrir aujourd'hui à l'Ukraine après ce qui s'est passé ? Tout le monde est d'accord pour dire que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN et ne sera pas dans l'OTAN dans un avenir prévisible. Mais qu'est-ce que l'Europe peut apporter comme garantie de sécurité à l'Ukraine qui est aujourd'hui menacée d'une invasion massive ?
À ce stade, je pense qu'il faut que l'Europe réfléchisse à pouvoir aider l'Ukraine plus. Mais on voit bien qu'il n'y a pas d'unanimité sur ce sujet. On voit bien que les Allemands qui avaient promis d'aider les Ukrainiens ont reculé. Donc il faut qu'il y ait une réunion de l'Union européenne sur ces sujets. Mais là encore, monsieur Aski, je crois que l'Union européenne, à un moment, elle a rendez-vous avec son histoire. Soit elle décide qu'elle a une autonomie stratégique, qu'elle devient proactive dans l'organisation de la sécurité sur le continent, soit elle ne le décide pas. Pour l'instant, on a bien compris qu'elle ne le voulait pas. Mais il va falloir qu'elle se mette autour de la table. Destin se joue aujourd'hui.
Vous êtes pour des livraisons d'armes à l'Ukraine ?
Des livraisons d'armes, je ne sais pas, mais peut-être de...
Bah, la question se pose, il y a des pays qui ont livré des armes, le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne, ou les États baltes, par exemple, et la France et l'Allemagne, depuis le début de cette crise, n'en ont pas livré.
Bah, parce que nous attendions d'avoir des gestes de Monsieur Poutine. Monsieur Poutine ayant totalement instrumentalisé sa médiation avec Emmanuel Macron et l'Union européenne, je pense que c'est des sujets qui doivent s'envisager.
Vous vous êtes prononcé dans une tribune le mois dernier contre tout élargissement de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine a vocation un jour à rentrer dans l'Union européenne ? Jamais ?
À ce stade, le sujet, il est clair pour moi, c'est l'approfondissement et remettre à plat les règles européennes. On a vraiment tellement de travail à faire pour réformer l'Europe que l'élargissement n'est pas la priorité.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les pays à la périphérie, que ce soit l'Ukraine, la Géorgie ou la Moldavie ou les pays des Balkans, de les renvoyer dans un no man's land politique dont profitent des pays autoritaires?
Beaucoup de grands dirigeants ont considéré qu'on avait élargi un peu trop vite l'Union européenne avant de consolider ses institutions. Et vous le savez bien, en 2005, ça a été le gros sujet sur le référendum sur la Constitution européenne. C'était est-ce qu'on n'aurait pas dû faire l'approfondissement avant l'élargissement? Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne doit se refonder. Elle doit refonder une politique de puissance, une stratégie de puissance, et que ça se fera plus facilement à 27 que à 30 ou 31.
Je vais vous poser une question qui est revenue plusieurs fois dans ce débat. C'est qu'est-ce qui vous différencie d'Emmanuel Macron sur la politique étrangère ?
Ah ben moi, j'aurais pas du tout la même diplomatie. Il a une diplomatie, je l'ai dit, arrogante, solitaire.
Aujourd'hui, ça, c'est la forme, mais sur le fond.
Arrogante et solitaire, mais sans résultat.
Si on prend l'échiquier politique français, sur la crise ukrainienne, on voit bien un clivage majeur dans les relations avec la Russie.
Ça c'est clair. Quand je vois Marine Le Pen et Éric Zemmour qui s'alignent en permanence sur les positions russes, je dis que c'est pas la France debout, c'est la France à genoux. On doit être certainement, on est allié et pas vassal et pas vassaux des États-Unis, mais vis-à-vis de la Russie, on doit avoir un vrai dialogue. Et moi, je le soutiendrai ce dialogue, mais c'est pas un dialogue, j'allais dire, de soumission aux positions russes. C'est un dialogue avec des rapports de force. Et là, aujourd'hui, malheureusement, la crise ukrainienne nous apprend que quand ce dialogue n'est pas mené suffisamment tôt, il n'est pas suffisamment nourri et qu'on ne prévoit pas les crises, on peut se retrouver dans des situations extrêmement graves.
Alors, tout au long du quinquennat, le président a essayé
Sur Emmanuel Macron et la différence, mais c'est simple. Aujourd'hui, nous n'avons pas de diplomatie d'influence. Nous sommes très seuls. Faire de la diplomatie, c'est aussi avoir des alliances. On le voit, je l'ai dit, l'exemple le plus criant, c'est au niveau de l'Union européenne, où nous n'arrivons pas à défendre nos intérêts. On l'a vu sur le nucléaire, on le voit sur les industries de défense, on le voit sur la préférence européenne, sur la taxe carbone. Mais Regardez aussi le sujet de l'Afrique. Aujourd'hui, la France n'a jamais été aussi impopulaire en Afrique. Et le sujet aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au Mali ? Revenons un petit peu sur ce qui s'est passé au Mali. Comment tout a démarré au Mali ? C'est parce qu'Emmanuel Macron, un jour, dit « on va se retirer ». Et là, en cascade, il dit ça tout seul, il annonce ça tout seul, et en cascade, la junte commence...
Vous faites des raccourcis, quand même.
Oui, mais enfin, la junte commence à dire « on nous laisse tomber », commence à dire « je vais faire venir des milices Wagner ». Et d'ailleurs, entre parenthèses, je n'aurais pas laissé sans réagir M. Poutine dire en conférence de presse devant moi que les milices Wagner sont une société privée qui n'a rien à voir avec l'État russe. Emmanuel Macron a subi une humiliation ce jour-là, il n'aurait pas dû rester sans réagir. Sur le Mali, le sujet, aujourd'hui, la décision de s'en aller, elle était inéluctable, mais ce qui a provoqué cette décision, c'est aussi cette décision solitaire et cette absence de concertation. Moi, je ne me résous pas à ce que la France soit aussi impopulaire en Afrique. On a besoin d'avoir une vraie politique africaine et d'aide au développement.
Merci Pierre Aski pour ces questions internationales. On a avec Léa maintenant quelques petites questions de fin. Questions rapides, réponses rapides.
Vous êtes élue, vous faites entrer qui au Panthéon, Valérie Pécresse?
Ouh, c'est comme ça, là, juste de chic. J'ai pris position pour l'entrée de Molière à la suite d'un appel, mais j'ai pas réfléchi encore à la personnalité politique emblématique que je panthéoniserai.
Dernier livre lu.
Je suis en train de lire en ce moment La Splendeur et l'Infamie, qui est un livre sur Churchill. Et qui raconte la bataille d'Angleterre, mais vue dans le Churchill intime. Et j'ai lu le dernier Goncourt
que vous avez aimé,
qui m'a beaucoup intéressé et qui a été rédigé grâce à une résidence d'artiste de la région Île-de-France.
Mohamed Bouguersar.
Absolument.
Cinéma.
La plus secrète mémoire des hommes.
Le cinéma. Les Misérables de la Djli ou Bac Nord de Cédric Jiménez.
Bac Nord de Cédric Jiménez.
Non. Votre grand-père était
d'autant plus que aujourd'hui, malheureusement, il y a des mises en cause très sévères sur l'Adjli, et je respecte la présomption d'innocence, mais je suis quand même très préoccupée par ces mises en cause.
Votre grand-père était psychiatre, vous êtes plus Freud ou Lacan?
Écoutez, dur. En réalité, les psychiatres à l'époque de mon grand-père étaient en guerre avec les psychanalystes parce que ils prenaient la reconnaissance de la dépression nerveuse comme une maladie, une vraie maladie avec des vrais médicaments pour la soigner, notamment des antidépresseurs. Et donc, il y avait une grosse opposition entre mon grand-père et les psychanalystes. Donc, je ne suis ni Freud ni Lacan.
Allez, une dernière avant Augustin. Vin rouge ou champagne, fromage ou dessert?
Vin rouge et fromage. Pourquoi vous riez?
C'est très bon. Augustin.
On rit de nos questions.
Très bien, le vin rouge et le fromage.
Ouais.
Bonjour Valérie Pécresse. Une dernière question sur cette idée d'une journée des héros français qui serait le 10 novembre. Alors c'est une mesure importante parce que ce serait, si j'ai bien compris, votre première mesure. Et l'idée, ce serait donc de ressouder la nation française à partir de modèles. Moi, ça m'intéresse, mais je m'interroge quand même sur ce que c'est qu'un héros pour vous. Qu'est-ce qui fait son étoffe? Qu'est-ce qui fait son exemplarité? Est-ce que c'est un fait de gloire ou est-ce que c'est sa vie tout entière? Auquel cas, vous le savez, c'est un petit peu plus complexe. C'est surtout qu'il choisira ce héros. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre ministre?
Non,
ou est-ce que c'est nous?
C'est la communauté éducative. C'est la communauté éducative qui se réunira et qui décidera dans chaque classe quel héros on a envie de célébrer. Ce sera des héros d'hier, mais ça peut être des héros d'aujourd'hui. Ça peut être des soignants en première ligne pendant la crise Covid. Ça peut être des pompiers volontaires. L'idée, c'est de donner des valeurs positives dans cette France qui fait des choses tellement merveilleuses, qui est tellement un pays formidable et qui a besoin de valeurs et d'énergie positive.
Merci Valérie Pécresse.
Merci
d'avoir été à notre micro ce matin. Il est 9h30, Augustin Trapenard.
Boumang avec un